Oui, là-bas, si j'y suis, je sais que souvent vous me gonflez. Hein. Mais là, l'émission d'aujourd'hui était superbe. Et puis, voilà, c'était très bien de rendre hommage à une grande dame comme ça. Voilà. Et puis, la chanson, la fiche rouge, c'est vraiment qu'un truc qu'on peut pas écouter. Enfin, personnellement, je peux pas écouter sans avoir les larmes aux yeux. Donc, voilà, c'est, voilà, bah, salut.
Bonjour, c'est nous. Lucie Aubrac, quand elle témoignait dans les écoles, elle n'oubliait jamais de parler des acquis sociaux du CNR. Elle tenait à ce que ce mot « résistance » soit actuel. Certains aimeraient que son corps repose au Panthéon. Dites donc, messieurs Chirac, De Villepin, Sarkozy, on ne vous entend pas beaucoup lui rendre un hommage. C'est le mot « résistance » qui ne passe pas? Ou est-ce parce qu'elle était communiste? Ah, si elle avait été gaulliste, ça aurait été une autre paire de manches. Monsieur Raymond Aubrac, nous, les AMG, nous vous disons chapeau bas. Son dernier combat a été pour les sans-papiers. Il nous reste Germaine Tillon qui va avoir 100 ans au mois de mai.
Oui, Daniel, bonjour. Je voudrais te dire merci pour ta très belle émission qui honore la mémoire de Madame Aubrac, femme remarquable et exemplaire. C'est vrai, la résistance existait pour beaucoup dans tous les gestes de la vie. Mon père, décédé maintenant, me disait que lors de la visite de Pétain dans sa ville, une seule personne s'était déplacée pour le voir. Quelle réussite pour la résistance! De plus, ma belle-mère avait enlevé dans son magasin la photo de Pétain qu'on lui avait imposée. C'est ça la France. Enfin, je l'espère. Mais j'ai peur que lorsqu'on voit l'extrême droite se pavaner à la télévision, il reste encore pas mal de choses à faire. Merci. Au revoir, Daniel. Et résistons. C'était Pierrette de Morpin.
Bonjour Pierre à Brissac. Il y a environ 6 ans, nous avions été avec une amie Martine à Sumène où se trouvait sa maison de campagne, c'est-à-dire celle de Lucie Aubrac. Mais nous avions été tellement impressionnés que ça voudrait dire nous étions sans voix, mais en lui posant quelques questions. Et nous avons quand même sorti un article pour le journal local qui s'appelait L'Opelon, en traduction La Châtaigne. Mais quand je l'entends là aujourd'hui... Je me suis dit que c'est extraordinaire qu'en fait, c'est un véritable plaidoyer pour le service public quand elle parle de la sécurité sociale et des autres services. C'est extraordinaire. Je me demande si ceux qui se réclament du gaullisme ne doivent pas trembler de l'entendre aussi vindicative et aussi résistante pour conserver effectivement tous les acquis du service public. C'est superbe, elle est magnifique. Il en faudrait des milliers comme elle. Allez, salut.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est René de Montpellier. Je viens d'écouter avec beaucoup d'émotion l'hommage que vous venez de rendre à Lucie Aubrac. Je vous dis un grand merci. À bientôt.
Oui, bonjour, à propos de Lucie Aubrac, il y a encore même pas un an, je l'avais vue à la télé... qui allait dans les écoles expliquer aux enfants ce que c'est l'esprit de résistance. Alors la résistance telle qu'elle a vécue pendant la guerre, mais aussi la résistance tout court telle qu'elle a vivé encore. Parce que jusqu'à la fin, elle a milité. Alors on peut se demander quand même ce qui pousse des gens plus de 90 ans à continuer à militer. Parce que quand même des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête pas, hein? C'est quoi cette foi-là qui fait qu'on s'arrête pas? Moi des fois je me demande vraiment pourquoi on se repose pas tout simplement. Enfin, en tout cas, quand je vois Lucie Aubrac, on se dit qu'on peut avoir la force jusqu'au bout. C'est rassurant.
C'est rassurant. C'est rassurant. Merci pour tous ces messages, très nombreux. Il y en a beaucoup d'autres. Suite à l'émission d'hier en hommage à Lucie Aubrac et à Raymond Aubrac qui était avec elle dans cet entretien avec François Ruffin. Vous avez été très sensible et surtout, vous avez été sensible à l'esprit de résistance qu'elle a mené et qu'elle a entretenu et dont elle a fait preuve jusqu'au bout sur des faits récents, sur des moments politiques et des engagements récents jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Elle a été cette figure de la résistance. On lui rend hommage. D'ailleurs, peut-être pas tant que ça. On s'attendait à un hommage plus vaste. Mais enfin, il y a eu des hommages officiels de la part de ceux qu'elle combattait. Alors, ou bien c'est une façon de la récupérer, ou bien c'est dire à quel point son combat a porté. Enfin, c'est une question que nous ne pourrons pas résoudre à l'instant. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'euthanasie. L'affaire de Périgueux a relancé ce débat et ces questions. C'est régulier, c'est chronique. On sait que 87% des Français se disent favorables à la possibilité pour les personnes atteintes de maladies incurables de demander l'euthanasie. On sait où on est, où en sont les lois. On constate la frilosité des politiques, de ceux qui ont des décisions à prendre. Et puis on s'interroge de plus en plus sur la possibilité de mourir dans la dignité, c'est-à-dire d'avoir recours à une sorte de suicide assisté. Et ce sont des graves et profondes et importantes questions qui vont nous assaillir probablement de plus en plus dans les temps prochains avec le papy boom, cette génération qui a vu le contrôle des naissances pourrait bien être celle qui voit s'accomplir le contrôle de la mort. En tout cas, c'est un thème très ancien, mais qui est travaillé dans nos sociétés aujourd'hui. Et on va revenir sur une émission qu'on avait diffusée il y a fort longtemps, à la suite d'un courrier qu'on avait reçu d'un professeur belge, Paul Jacobs, professeur à l'université de Bruxelles au service de génétique appliquée, et qui nous avait écrit pour nous dire, si vous voulez, ma famille et moi, nous serions d'accord pour témoigner suite à l'euthanasie d'un parent, d'un père. Et c'est ces témoignages que je vous propose de réécouter aujourd'hui, qui ébranlent évidemment nos consciences et nos inconsciences aussi, mais qui apportent sans doute des amorces de questions dans ce pays qui n'a pas la même législation que nous, comme vous le savez. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. Je viens d'entendre aux informations là, sur votre station de radio qu'une personne aurait fait 400 km à pied pour aller demander du travail donc, au ministre de l'Emploi. Étant moi-même chef d'entreprise et ayant un emploi à pourvoir, je suis prêt à lui donner une place, à lui donner sa chance, en tout cas, s'il accepte de faire 1000 km à genoux, en marche arrière et en se roulant par terre aussi, tous les trois pas, disons. Puis en arrivant, s'il veut bien japper et donner la papate, peut-être que je lui donnerai un petit travail. Mais putain, où on va, les gars? Où on va, quoi? Arrêtez tout, et allez voir le film de Pierre Calle, bordel de Dieu, arrêtez tout.
Bon ben voilà, on l'a eu. Le Mohamed en question, responsable de tous les attentats de toutes ces dernières décennies, l'an septembre, Bill Clinton, le pape, il a tout fait, il était vraiment méchant, ce monsieur. Heureusement que les médias sont là pour nous informer. Il paraît même qu'il avait prévu d'assassiner Chirac, Sardou, Zidane et de faire sauter la tour Eiffel et le viaduc de Millau. Ouf, on l'a échappé belle. Allez, merci les médias pour vos informations, ça fait avancer le monde. Bon courage Daniel, c'était Simon de Berlin.
Ça y est, c'est le printemps. Le printemps, c'est 15 mars, hein, c'est plus 21 mars. Parce que 15 mars, c'est la date à laquelle vont pouvoir reprendre les expulsions. Donc, vive le printemps des expulsions et bonne suite à tout le monde. C'était Pierre de Toulouse. Salut Daniel.
Salut Daniel. J'ai appelé simplement pour dire que Pierre Karl sera ce soir, vendredi 16 mars, au cinéma Le Dietrich à 21h pour présenter son film Volem rien foutre à le pays, qui est projeté dans le cadre de la quinzaine des documentaires. Donc c'est ce soir vendredi 16 mars à 21h au cinéma Le Dietrich à Poitiers. Voilà. Allez, au revoir à tous.
Oui, bonjour, ici les grévistes de la faim de l'appel d'Orléans. Donc on demande au gouvernement un moratoire pour arrêter immédiatement les cultures et essais d'OGM. On est à la maison ouverte 17 rue Hoche à Montreuil. Vous pouvez nous joindre au 06 18 23 27 11 et venir signer notre pétition. Voilà, on est ouvert de 10h à 19h. Vous trouvez également cette pétition sur www.moratoireogm.fr. Vous pouvez la signer en ligne. Voilà, et monsieur Mermet, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas de souci, on vous recevra volontiers. Au revoir.
La crosse en l'air. Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas un appel à la révolte. C'est nous, la compagnie Joli Môme. En ces temps où l'extrême droite monte en Europe, où les religions s'insèrent dans la vie politique, où la poésie et l'insolence de Prévert manquent furieusement, nous jouons La crosse en l'air de Jacques Prévert à la Belle Étoile à Saint-Denis. Et ça jusqu'au 1er avril inclus. Tous les renseignements au 01 49 98 39 20 ou sur notre site www.cie-jolimome.org. À bientôt.
Joli message, hein. Joli message finalement, que ceux de celui de Joli Môme, mais très écrit. Les autres, c'est avec les mots qui viennent. Certains sont en colère, certains sont doux, certains sont. C'est toujours un bonheur quotidien d'ouvrir la boîte des messages, et puis de choisir. Hélas, on peut pas tous les passer. En voilà un qui vient de Guyane, qui est assez long, mais qui nous a semblé très compétent.
Bonjour, le répondeur de là-bas, si j'y suis. Je m'appelle Gérard, je vous téléphone de Guyane. On vient de trouver l'Eldorado. C'est pas une blague. Imaginez, 500 tonnes d'or. Ça fait rêver, hein? Et où se trouve ce trésor? Sur la commune de Roura, à 50 km de Cayenne. Dans la grande réserve naturelle de Guyane. Ce sera la plus fabuleuse mine d'or depuis les mines du roi Salomon. La société canadienne Cambior aura le 15 mars 2007 le droit de mettre en exploitation cette mine à ciel ouvert. Alors l'exploitation, elle doit durer 7 ans. Les conditions fiscales sont fabuleuses, 0,25% de taxes locales. Le seul problème, c'est qu'il faut broyer 400 tonnes de roche pour extraire, dans un bain de cyanure, 1 kilo d'or. Le projet prévoit de creuser 2 fosses de 40 étages en palier d'une superficie équivalente à 70 terrains de foot. Alors, cette matière broyée, additionnée de produits chimiques, sera mise à tremper dans un bassin. C'est là où ça se corse. Ce bassin doit être à la mesure du projet. La solution est d'utiliser 5 collines de 50 à 80 mètres de hauteur qui sont comme les pointes d'une étoile à 5 branches. Entre les collines, on fait des barrages de terre, ce qui fait un bassin de 1,2 km carrés. On verse 51 000 tonnes de produits chimiques. Et on se pose la question, si un barrage de terre lâche, l'eau se déverse dans les affluents de la Comté, où se trouve la station de pompage de l'eau potable de Cayenne et de ses environs. C'est-à-dire qui alimente 100 000 personnes actuellement. De mauvais esprits ont dit que le manque de logements serait réglé pour un bon bout de temps à Cayenne. Quel pays peut donner des autorisations d'une telle folie? Si vous avez des réponses, donnez-la. Un dernier mot. La même société Cambior a déjà fait le même type d'exploitation au Guyana. Le lac de cyanure s'est vidé en forêt quand le barrage de terre a lâché. Quelques camps d'Indiens ont été nettoyés. C'était la guerre civile. Pas trop de problèmes. On verra comment l'administration se dépêtera de ce problème quand ça arrivera en Guyane. Au revoir, merci de m'avoir écouté.
Merci de nous avoir adressé ce message, et c'est une affaire à suivre, même si ça se passe dans cette lointaine et souvent délaissée Guyane. On va donc retrouver ces témoignages, la fin de Jacobs. Auparavant encore ce très beau message avec une interprétation d'un écrivain, plutôt d'une écrivaine.
Les médicaments n'agissent plus, l'enflure des jambes augmente. L'un des avantages de la mort sera d'être de nouveau étendu sur un lit. C'est à moi maintenant de consoler Antonin. Je lui rappelle que la mort me semble depuis longtemps la solution la plus élégante de mon propre problème. Ils m'ont emmené à Baïès. Par ces chaleurs de juillet, le trajet a été pénible, mais je respire mieux au bord de la mer. La vague fait sur le rivage son murmure de soie froissée et de caresses. Je jouis encore des longs soirs roses. Mais je ne tiens plus ces tablettes que pour occuper mes mains qui s'agitent, malgré moi. Le beau village de Céleste est comme toujours étrangement calme. Il s'applique à me soigner sans rien laisser voir de ce qui pourrait ajouter à l'inquiétude. Diotine sanglote. Petite âme, tendre et flottante, compagne de mon corps qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nus, où tu devras renoncer au jeu d'autrefois. Un instant encore, regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute nous ne reverrons plus. Tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts. Marguerite Yourcenar, Mémoire d'Adrien.
Quand sa respiration s'est enfin arrêtée, je me suis levé, je suis allé près de lui, je ne sais pas si je lui ai fermé les yeux, je ne sais pas s'ils étaient ouverts, mais je sais en tout cas que j'ai touché son visage et puis j'ai pris sa main dans la mienne. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais...
J'étais tout à fait d'accord, hein, mais moi, j'ai pas voulu prendre la décision, moi. Mais les enfants l'ont fait, ils ont très 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 bien fait. J'approuvais des deux mains, mais moi, j'avais pas le cœur d'y aller. Mais... Non, je savais pas y aller.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. La fin de Jacobs.
Flight number 2, arriving from
New York. Les repas de fête, et ça c'était mon père, et faire des grandes tables avec plein d'amis tout autour. On enlevait tous les meubles, on faisait une grande table. Il faisait des gâteaux, les gâteaux qu'il a toujours fait pour les anniversaires des gosses à l'école. Bon, c'était bon papa. Enfin, pas bon papa gâteau, mais bon, au terme réel du mot, il faisait des gâteaux. Alors, il lui disait, moi, je veux un train, moi, je veux un bateau, moi, je veux ceci, moi, je veux... Et il faisait des gâteaux en forme de train, de bateau, pour emmener à l'école. Donc, ils étaient super fiers de leur grand-père. Et c'était... Bon, je dirais que mon père... Dans la cuisine. Mon père a toujours aimé ça.
C'est Claudine qui parle, et puis il y aura Paul, et puis Georgette, et puis les autres, tous ceux qui ont assisté à la fin de Jacobs. Assisté à la fin de Jacobs, l'idée, l'intention, la réponse était de mourir dans la dignité, qu'il mourut dans la dignité. Ça se passe en Belgique, c'est une lettre que nous avions reçue de Paul Jacobs, le fils donc, professeur, le fils professeur à l'université de Bruxelles, au service de génétique appliquée, qui est la suite d'une émission que nous avions dû consacrer déjà à ce sujet, nous avait adressé ce courrier en nous disant qu'il était prêt, si nous le souhaitions, à témoigner, nous apporter son témoignage, avec ce témoignage des autres, des proches, femmes, enfants du père en question. La question, elle est que C'est une affaire de dignité, bel et bien une affaire de dignité. Il existe un mouvement depuis déjà pas mal d'années sur la question de mourir dans la dignité. Il faut savoir que en France, 500 000 personnes décèdent chaque année, mais décèdent à l'hôpital. 75% des Français meurent à l'hôpital et seuls. Et ce qu'il faut savoir, c'est cela. Et on est face à cette solitude, à cet abandon, et c'est un immense problème, c'est une immense question qui est au cœur même de notre société, de notre civilisation, disons, et qu'il faut de temps en temps, je pense, regarder en face. On le voit à l'occasion de l'affaire de Périgueux, une fois de plus, les Français, à presque 90%, se disent, je le disais, favorables à la possibilité pour les personnes atteintes de maladies incurables de demander l'euthanasie. Ça fait l'unanimité, on peut penser que les lois un jour suivront ce consensus. Pourquoi est-ce que l'euthanasie, d'ailleurs, ne s'inviterait pas dans cette campagne? Ça pourrait être un sujet de société qui pourrait être débattu et pousser les candidats à se positionner, en tous les cas faire débat. Mais on n'aura pas pour autant regardé en face cette solitude et cette indignité face à la mort. Et c'est pourquoi à l'époque, on avait accordé beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention à ce témoignage, encore une fois, je le répète, venant de Belgique, pour la sincérité, pour le questionnement, pour les contradictions aussi à l'intérieur même des mots, vous allez l'entendre, mais pour cette volonté, je crois, que nous partageons de regarder parfois la mort en face.
Donc, il a développé un problème à la vésicule biliaire. Et à ce moment-là, il y avait un ami de mon frère qui était médecin à l'hôpital et qui a trouvé que mon père avait des réactions curieuses alors qu'il le connaissait depuis toujours, je dirais. Alors, il a alerté le médecin et un neurochirurgien est venu le voir. Et ils ont fait des tests et ils se sont aperçus qu'en dehors de son problème de vésicule, il avait une tumeur qui n'était pas cancéreuse, mais une tumeur qui compressait le cerveau, qui se trouvait entre le crâne et les méninges. Et donc, il a progressivement, mais très vite, perdu ses facultés.
Mentales, oui.
Et ça s'est détérioré. Alors, bon, ce neurochirurgien a accepté de l'opérer. Au moment où ce neurochirurgien, bon, voulait discuter avec lui, mais il était plus, enfin, il voulait l'autorisation parce que c'est une opération importante avec des risques. Et il était plus vraiment capable de la donner. Donc, le médecin s'est bien rendu compte qu'il avait des grands moments d'absence. Il n'était pas encore complètement amnésique, mais il avait de très grands moments d'absence. C'est-à-dire que c'est mon frère qui parlait au médecin. Mais il ne parlait pas sans que je sois au courant. Donc, il est allé dire au médecin que s'il y avait le moindre problème au moment de l'opération, il fallait surtout pas ni réanimer, ni tenter l'impossible s'il y avait un accident. Il n'y a pas eu d'accident. Mais après, ça s'est terriblement détérioré. Ce n'est pas la faute du médecin, c'est lui. Ce cerveau s'est détérioré de plus en plus, donc il était amnésique, il était incontinent, on le nourrissait avec... une sonde, enfin bon, c'était incroyable. Enfin, c'était plus mon père, quoi. C'était quelque chose de très triste. Moi, j'étais le voir tous les jours, mon frère aussi. Je veux dire qu'il y avait plusieurs années qu'il ne l'avait plus vu, mais quand il a su qu'il était malade, pour soutenir ma mère, parce que. Bon, elle a toujours eu une terrible admiration. Je ne dis pas qu'elle n'en a pas pour moi, c'est autre chose. Nous, on se voit tous les jours. Et quand c'est tous les jours, c'est du normal, c'est du naturel. Et pour ma mère, je dirais que pour elle, moi je suis sa suite, c'est normal. Tout ce que je fais, tout ce qui se passe chez nous, le rapport que j'ai avec elle est un rapport normal. Alors, disons que quand mon frère fait quelque chose, un petit peu moins maintenant, parce qu'elle est quand même, enfin, on a mis les choses au point, elle et moi. Mais autrement, hein, mon frère faisait quelque chose. C'était le Dieu qui avait débarqué, qui avait pris une décision, qui lui avait donné la main, qui l'avait réconforté. Parce que il est, enfin, on est différents. Donc, il est beaucoup moins présent, mais il est beaucoup plus tendre. Bon, il va la prendre, il va lui parler, il va la tenir par le bras. Bon, moi, je fais jamais ça, je la touche pas. Enfin, je la touche pas, on s'embrasse pour se dire bonjour, point. Mais je ne la touche jamais. On ne se touche pas.
Voilà comment parle Claudine, donc la fille de Monsieur Jacobs. Et c'est vrai que c'est pas, tout ça n'est pas simple. Ça n'allait pas de soi, ce qui s'est fait là. Comme jadis, l'avortement, quand la loi a été adoptée, ça n'allait pas de soi. On le sait maintenant, on sait bien que c'était nécessaire, bien évidemment. Il ne s'agit absolument pas de revenir sur ce qui a été adopté, qui était évidemment nécessaire. Mais on ne peut pas dire que ces choses-là vont d'elles-mêmes. Voilà ce que ça suscite toujours dans la conscience d'une famille.
Je jouais taxi pour ma mère. Donc j'allais entre l'heure du midi, pendant 5 mois, je n'ai pas mangé à midi. Parce que j'allais la, je quittais mon boulot, j'allais la chercher, je la dépose à l'hosto. Je voulais pas qu'elle monte toute seule. Donc je montais avec elle. Et puis elle passait l'après-midi avec mon père. Et je redescendais, je retournais travailler, j'allais la rechercher le soir. Donc j'ai fait ça pendant 5 mois quand même, tous les jours. Et moi, ça me pesait très fort parce que c'était, j'allais pas voir mon père, parce que c'était plus mon père. Donc, je me sentais très mal à cet endroit-là. J'y allais pour pas la laisser aller seule, pour pas qu'elle entre seule, parce qu'on savait encore, bon, ça pouvait encore être pire que ce qu'on avait déjà vu, si c'était possible. Et puis, alors, en fait, il y avait plus de soins. À la fin, enfin, plus de soins, oui, les soins, mais les soins domestiques. Ça n'était plus, enfin, on ne soignait plus. Il n'y avait plus de médicaments, il n'y avait plus, on ne pouvait plus rien faire pour lui. Donc, il y avait aussi un moment où il aurait dû quitter l'hôpital. Pour faire quoi? Pour aller où? Alors, ma mère avait pris, parce que, en fait, son mari, c'était, enfin, son mari, elle a toujours dit mon mari. Son mari, complètement, diminuée, inconsciente, ne la reconnaissant plus. Elle allait passer tous les après-midi avec lui. Et quand on s'est dit qu'il fallait qu'il trouve une solution, sinon celle qu'on a trouvée, c'était aller dans une maison qui s'occupait de crabataires, de on ne sait pas très bien quoi, on n'a pas trouvé, on n'a même plus, pour finir, on n'a plus cherché. Mais elle imaginait aller habiter là avec lui. Alors, ça, on s'est dit, c'est pas possible, comment, parce que c'est plus lui. Elle va. Enfin, bon, on peut pas. L'abnégation jusqu'à ce point-là, c'est trop. Enfin, nous, on trouvait vraiment que c'était quand même. Enfin, moi, j'imaginais pas ça, quoi. Et bon, mon frère est encore allé voir le médecin, mais c'est vrai qu'en Belgique, l'euthanasie est totalement interdite. Hein, c'est un assassinat. Hein. Donc, bon, un médecin, quand même, il doit vraiment être sûr que c'est un souhait, qu'il ne sera pas dénoncé, même s'il prend ses responsabilités. Malgré tout, il ne faudrait pas qu'on porte plainte après, parce qu'il serait rayé de l'ordre, il aurait de grosses difficultés, hein, bon. Donc, ça doit être, il doit quand même aussi être sûr que c'est sans issue. Parce que s'il y avait la moindre chance qu'il puisse se rétablir, ne fût-ce qu'un peu. Mais je dirais que mon père même, bon, il n'y avait plus de chance qu'il se rétablisse, mais même un peu, je crois qu'il aurait jamais voulu ça, quoi. C'est quelque chose dont on a toujours parlé dans la famille, que personne, enfin bon, à partir du moment où on n'a plus une vie digne, une vie qui comporte ses joies et ses peines, mais quand même plus de joie que de peine, et qu'on n'est plus conscient de ce qui se passe, qu'on est une charge pour tout le monde. Bon, il est bien évident que c'est quelque chose qui est commune à tous les membres de la famille. On ne veut pas être une charge, on ne veut pas vivre à tout prix. Vivre à tout prix, c'est quoi? Vivre si, enfin, pour nous, c'est plus vivre, ne plus être soi, ne plus profiter. Bon, être, bon, je sais pas, moi, une plante dans un fauteuil, ça vit pas, quoi. Même si on l'alimente, parce que je pense qu'il ne serait pas mort. Maintenant, peut-être bien, mais il n'y avait pas de mort immédiate prévue. Bon, les fonctions vitales, le foie, les reins, le cœur, les poumons, tout ça fonctionnait. Bon. Parce qu'il aurait pu aussi mourir d'une crise cardiaque. Mais ce cœur tenait. Ses poumons fonctionnaient, il n'a jamais eu de problème. Bon, il n'a jamais eu d'oxygène, il n'a jamais eu de renforcement cardiaque. Enfin, tout ça fonctionnait. Donc, ça aurait pu durer encore, on ne sait pas très bien, mais ça aurait pu durer. Mais comme ça, pourquoi? C'était... Et un jour, on est retourné. Enfin, c'est-à-dire que c'est mon frère qui voyait le médecin. Je crois que le médecin préférait discuter. Enfin, moi, j'avais pas très envie de lui parler non plus, je veux dire. Donc, c'est mon frère qui était le porte-parole et qui discutait et qui lui a posé plusieurs fois la question jusqu'au jour où il a dit, écoutez, je pense que si vous êtes d'accord, c'est peut-être le moment parce qu'il n'y aura jamais plus rien. Ils ont fait un dernier scanner du cerveau pour être sûr que, en fait, qu'il n'y ait pas de partie vivante dans le cerveau, et il a proposé de l'euthanasier. Et là, on était à trois. Laurence n'est pas venue non plus, et il y avait Anne, mon frère et moi. Et ma mère qui savait très bien de quoi on allait parler, mais qui n'est jamais venue avec nous. Mais qui était d'accord.
Euthanasie, de nos jours, il faut savoir que les trois quarts des gens dans le pays décèdent à l'hôpital, abandonnés au système des soins, loin de leurs proches qui sont souvent exclus, ces gens en phase terminale, disons, des décisions médicales. Alors, bien sûr, qu'en devenant acteur de son propre trépas, c'est un moyen de sublimer la peur de la mort, d'y échapper. On a toujours voulu échapper à la mort, nous qui sommes dans une durée, simplement, dans une durée finie, mais donc dans une durée par rapport à un temps dont nous ne savons rien. C'est nous qui avons inventé le temps, mais on sait bien qu'on est dans l'infini, et c'est toute l'articulation de l'humanité qui est là, dans la mort même. Raoul Weinegem dit, pour nous encourager, mais pas seulement, bien sûr, que la vie épuise la mort. La mort est ce que la vie épuise. Mais la mort est aussi ce que la vie épuise. C'est à partir de là que tout se fait, un individu, une société, une civilisation, par les réponses qu'elle donne à cette énigme. Aujourd'hui, dans nos sociétés, l'euthanasie constitue une des réponses. Mais il n'y a pas si longtemps, la souffrance était la promesse d'un salut. Quand j'étais gamin, on discutait passionnément sur la nécessité pour nos mères à l'époque d'accoucher dans la douleur. Il fallait accoucher dans la douleur. Ça, c'était bon. Ça a été un grand débat. Et aujourd'hui, éliminer la souffrance est quelque chose qui ne va pas de soi dans nos sociétés, quand même largement, lourdement, diront certains, chrétiennes. Voilà Paul, donc, qui nous a écrit et c'est pas un témoignage qu'on est allé arracher à quelqu'un. Ce sont des gens qui voulaient témoigner. Donc je le rappelle, Paul Jacob, c'est professeur à l'Université libre de Bruxelles au service de génétique appliquée.
Je suis probablement dans la famille celui qui formule le plus les choses ou qui est le plus, je dirais peut-être celui qui ose dire les choses le premier, donc je pense que j'ai dû être le premier à en débattre, d'une part avec le chirurgien et d'autre part avec les autres membres de la famille. Et puis nous nous sommes réunis à l'hôpital, pas les quatre enfants parce que l'une des sœurs n'a pas voulu être présente, mais elle a donné son avis. Mais elle n'a pas voulu être là au moment où on discutait de ça, elle trouvait ça trop dur. Et donc, en tout cas, les trois enfants et ma mère, et avec le chirurgien, et nous avons pris la décision à ce moment, enfin, nous avons entériné, je dirais, ou rendu parfaitement clair et tous ensemble la décision à ce moment-là, dans une pièce attenante à la chambre, à la salle des soins intensifs où il était. Non, il était dans une chambre à ce moment-là. Il n'était plus en soins intensifs. Voilà. Et alors, on a décidé d'une date. Et nous avons été deux. Donc, une de mes deux sœurs adoptives et moi a souhaité assumer pleinement la responsabilité de la chose et donc à être présent quand ça se faisait. Donc, on a décidé d'un jour. On s'est rendu à l'hôpital. Et donc, on lui a fait une injection de morphine une fois. Il en avait de toute façon pour la douleur depuis longtemps, mais de passer à une dose qui devait être euthanasiante à raison d'une injection par heure. Ça a duré 5 heures. Et je veux dire, ça n'a pas été du tout ce que j'attendais. À savoir que... On raconte, en général, on dit que c'est que les qui s'endorment paisiblement et que à un moment ça s'arrête. Et je dois dire que c'est pas en tout cas comme ça que moi je l'ai vécu. Bon, ça a été 5 heures d'une agonie que je trouvais assez épouvantable. Et je trouve que là on a certainement des progrès à faire parce que depuis que ça s'est passé, j'ai entendu beaucoup d'autres gens qui ont assisté à des euthanasies et qui disent tous qu'effectivement, c'est pas au point, quoi. C'est... Donc, en l'occurrence, pour lui, ça a été 5 heures de râle avec très souvent des moments où on avait l'impression que c'était fini, quoi. Une respiration qui, effectivement, avait l'air de s'amenuiser et de pratiquement s'arrêter. Et puis, tout d'un coup... on dirait qu'il aspirait comme s'il luttait, quoi. C'est une impression, je ne sais pas ce que ça recouvre, mais l'impression, c'est qu'effectivement, il reprenait, sa respiration reprenait, et on était reparti pour tout un cycle. Et je dois dire, c'est... Bon, je... C'est pas moi qui fais les injections, parce que... Enfin, je ne sais pas, j'ai même le regret de ne pas avoir... Quand j'en parle, je dis, c'est moi qui ai euthanasié mon père, parce que je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, moi je ressens comme ça et j'ai même une espèce de regret de ne pas l'avoir fait vraiment moi-même. Je sais pas, difficile à expliquer pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Mon père m'a peut-être enseigné, il avait ça très très fort, un grand sens des responsabilités, mais je trouve qu'en tant que fils, c'était à moi de gérer ce problème. Et c'est je crois là un peu ma frustration de dire j'ai pas fait les injections moi-même. Je pense que vraiment c'était une espèce de devoir que je ressentais. D'assumer ça et c'est pas une chose qu'on peut déléguer à un tiers. Je trouve que c'est trop grave, trop important, trop personnel. Seul quelqu'un qui a une relation forte avec la personne, je trouve, moi en l'occurrence, son fils par rapport à lui, je trouve que c'était à moi de, j'ai envie de dire, de prendre soin de lui jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Et prendre soin de lui, c'était faire ça.
Une affaire, comme on le voit, morale, une affaire de réflexion, une affaire de choix de vie, tout ça ne va pas de soi, c'est partie des choses qui peut-être s'imposent comme des évidences. On parle du dernier tabou, mais depuis que les sociétés existent, elles sont faites de tabous et on pense toujours qu'il y a encore un tabou à abolir pour progresser. Bien sûr qu'on ne fait que changer de tabou, puisque les sociétés, par définition, en ont besoin. La question qui se pose là, c'est que le monsieur Jacobs a-t-il lui-même décidé de sa fin? Alors, la famille considère qu'à certains moments, il a souhaité. Il y avait donc une extrapolation à faire sur la philosophie du père par cette famille. Paul Jacobs, le fils qu'on vient d'entendre, Claudine auparavant, la fille qu'on vient d'entendre. Et voici comment Georgette, la maman et l'épouse donc du défunt, parlent.
Il a mangé une demi-tartine le jour où il a été opéré, et puis après ça s'est dégradé. En soins intensifs, on n'a plus pu rien faire. Vous savez, on n'est plus arrivé à le réveiller, et puis il n'a plus parlé. Et un jour, quand le roi est mort, il a lu Boléro de Ravel. Alors je me suis dit, ben ça va s'arranger, parce que c'était Boléro de Ravel hein, qui était marqué à la TV. Il avait une TV dans sa chambre, et il disait Boléro de Ravel. Je me suis dit, ça va s'arranger. Et ça, il y avait un assistant du médecin qui disait, ben oui, ça va peut-être s'arranger, mais ça s'est absolument pas arrangé. Ça a été une étincelle, et puis ça a été tout. C'est vraiment très, très bizarre. Hein. Il y avait quelqu'un dans le quartier à qui on a mis des langes, à une vieille personne, et il m'a dit, pour vivre comme ça, il vaut mieux être mort. Et c'était pire que ça. Alors j'ai dit au médecin, il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Il n'aurait. Et alors, une des filles que j'ai élevées, parce que j'ai élevé deux enfants après des amis qui sont morts, et là, il y a une des filles, celle qui aimait ça d'ailleurs, qui est pédiatre, a marié un Marocain. Et lui, il a été. Il a dit, vous n'avez pas le droit de choisir pour quelqu'un. Mais quand quelqu'un n'a plus sa tête, et qu'on se rend compte qu'il n'aurait pas voulu vivre comme il vivait, je trouve qu'on a le droit de faire ça. Hein? On a le droit, parce qu'il n'y a pas de raison quand même de faire vivre quelqu'un qui ne veut plus vivre comme ça. Hein? Il ne voulait pas. Mais on trouvait que le médecin avait attendu très longtemps. On a encore donné du sang, on se disait, mais est-ce qu'ils sont fous d'encore donner du sang à un malade comme ça qui n'allait plus. Je me suis rendu compte tout de suite des gens soins intensifs qui n'allaient pas se remettre. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça ne va pas s'arranger. S'ils pouvaient s'endormir et ne pas se réveiller, je les souhaitais tous les jours. Parce qu'on le nourrissait par le nez et... Il le retirait, et bon, c'était vraiment pénible. Une fois qu'il a été opéré du cerveau, je me suis dit, il ne va plus se remettre. Et je souhaitais vraiment qu'il s'endorme et qu'il ne se réveille plus. Quand quelqu'un n'a plus sa tête et qu'on se rend compte qu'il n'aurait pas voulu vivre comme il vivait, je trouve qu'on a le droit de faire ça. Hein? On a le droit, parce qu'il n'y a pas de raison quand même de faire vivre quelqu'un qui ne veut plus vivre comme ça. Hein?
Nous, c'est plus vivre, ne plus être soi, ne plus profiter, bon, être, bon, je sais pas, moi, une plante dans un fauteuil, ça vit pas, quoi. Moi, je trouve que c'était plus mon père. On a tué une petite plante qui était là, bon, qui vivait parce qu'elle respirait, quoi. Et qu'on la nourrissait. On l'aurait plus nourrie et elle mourait.
Il y a quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, qui quand même, bon, c'est... J'ai une relation conflictuelle à l'adolescence avec mon père, mais j'ai eu une relation extrêmement forte pendant toute ma petite enfance. Mon père était fonctionnaire, mais il était extrêmement bricoleur. Il travaillait sur la table de la cuisine. Il a fait des meubles entiers sur la table de la cuisine dans le HLM où on habitait. J'ai passé des centaines, des milliers d'heures assis devant lui à le regarder travailler. Je veux dire, bon, il montait le vélo sur la table de la cuisine, il démontait, le remontait, il graissait, il huilait. Je veux dire, il faisait tout. Et moi, souvent les gens me disent où tu as appris ceci ou cela. Ben, j'ai appris, j'ai regardé, j'ai passé des milliers d'heures à regarder mon père faire des tas de choses. Je crois que la première fois que j'ai pris un ciseau à bois en main, ben, je savais comment il fallait le tenir sans avoir l'impression d'avoir jamais appris. Oui, je crois que c'est quelque chose de tellement personnel et que... Et c'est ce qui change le sens, je pense. C'est qu'effectivement, peut-être que quelqu'un d'extérieur peut se dire « j'ai tué quelqu'un ». Quelqu'un qui voit ça de l'intérieur d'une relation forte se dit « j'ai sauvé quelqu'un ».
Filiation, Paul Jacobs parle de son père, les relations qu'il a eues avec lui jadis, mais il y a les petits-enfants aussi. L'histoire continue, Claudine, la fille, institutrice, laïque, je le rappelle, important, très important pour ces gens-là, a elle-même des enfants. Comment ces enfants, ces petits-enfants, donc du défunt, ont appris la nouvelle?
Mes enfants le savaient. Ils le savaient, disons que j'étais les chercher à l'arrêt du bus quand ils rentraient. Pour leur dire, pour pas le dire devant tout le monde. J'étais les attendre à l'arrêt du bus. Enfin, c'était pas... Je veux dire, c'était pas une surprise, quoi, mais... Mes enfants étaient tristes. Enfin, pour une maman, annoncer quelque chose qui fait la peine à ses enfants, c'est difficile. Plus difficile que pour soi. Parce qu'ils étaient petits et je crois que ça leur faisait. Il y a eu ça trois fois avec des gens auxquels ils étaient très proches. Il y a eu mon oncle. Quand mon père est mort et quand ma tante est morte. Qui était leur... Leur mémé, qu'ils adoraient aussi. Et puis bon, elle s'est réveillée un matin. Bon, 85 ans, c'est super. Hein. Je veux dire que c'est quelque chose que tout le monde pourrait espérer, mais l'annoncer aux enfants, c'était pas prévu, quoi. Ils avaient été tous dînés le mercredi. Et puis le jeudi matin aussi, ça doit être les jours. Le jeudi matin, le dire à ses enfants, c'est difficile.
C'est venu des semaines plus tard, je crois. Pour autant que je me souvienne, mais certainement pas tout au début, non. C'est plus tard que c'est venu. Je me souviens plus beaucoup, mais je me souviens d'un, par exemple, où il y avait dans le jardin une espèce de pelle mécanique qui creusait, et dans mon rêve, les gens cherchaient un cadavre. Et je crois que j'étais inquiet à l'idée qu'ils le trouvent. Donc j'avais une certaine angoisse, il creusait manifestement, il cherchait un cadavre, donc j'avais tué quelqu'un, il cherchait la preuve, quoi. Et donc là, il est clair qu'il y avait une forme de sentiment de culpabilité ou d'avoir effectivement tué quelqu'un, mais sentiment que j'ai jamais eu au niveau conscient, au contraire. Mais manifestement, malgré tout, quelque part dans mon inconscient, il y avait une autre forme de sentiment, puisque j'ai fait ce genre de rêve.
Derrière ça, j'ai insisté à plusieurs reprises, et la famille Jacobs a insisté sur le côté laïque du papa et de même de leur conviction de libre penseur. Derrière ça, bien évidemment, il y a l'Église catholique qui s'oppose de toute sa force, bien sûr, à l'euthanasie, comme elle s'oppose à l'avortement. Mais ça, c'est presque des affaires d'idées, de débats. Ça fait débat, quoi. Là, c'est des gens, aujourd'hui, avec leurs mots d'aujourd'hui, après cette euthanasie.
Tous les médecins le font, toutes les infirmières le font. Je veux dire, c'est beaucoup plus répandu qu'on imagine. Il n'y a aucune raison que ces gens vivent dans la crainte. Je connais quelqu'un qui a euthanasié son père tout récemment, et je sais qu'il disait à sa mère juste après, qu'est-ce qu'il va pas y avoir une autopsie? Est-ce qu'on risque pas de s'en apercevoir? Qu'est-ce qui risque de m'arriver? Donc voilà, un homme d'une cinquantaine d'années qui avait peur des conséquences légales de l'autopsie qu'il avait pratiquée sur son père à la demande de son père. Ça, il n'y a pas de raison que ça continue, ça doit s'arrêter. Il faut effectivement C'est pas facile de légiférer dans ce domaine, mais se voiler la face, ce n'est pas une solution.
C'est pas une solution, et tout le débat est là aujourd'hui. Je vous rappelle que 80% des Français sont favorables à une loi sur l'euthanasie. On ne sait pas quelle forme exactement pourrait avoir cette loi, ce qu'il faudra empêcher, qui décidera, etc. Mais restons encore avec cette famille, avec surtout avec la femme, l'épouse, la maman de Jacobs.
Il ne savait pas que j'étais sa femme. Parce que un jour, il a demandé ce que je venais faire, tant bien que mal, vous savez. Eh bien, j'ai dit, je suis ta femme et je t'aime. Mais il a fait comme ça. Donc, il ne se rendait même pas compte. Et je me disais toujours, s'il avait un moment de lucidité, il faut qu'il me voie. Tendre, mais pas avec sa femme. Et je crois qu'il était très attaché à toute sa famille. Pour finir, le médecin disait maintenant il souffre parce que le nerf sciatique avait pris dans ses escarres. Et j'ai eu l'impression, à un moment donné, il tremblait comme ça. Et alors je me suis dit, maintenant il est grand temps d'arrêter cette histoire, parce qu'il n'aurait pas voulu vivre. Moi, je regrettais qu'on ne l'avait pas fait plus tôt. Pas pour moi, hein, mais pour lui. Je crois que lui ne voulait pas vivre. D'ailleurs, moi non plus. Si un jour je suis diminuée, moi je trouve qu'il faut le faire. Il faut quand même laisser mourir les gens dignement et pas comme des... Il était vraiment devenu un enfant comme ça. Il était couché sur mon épaule, vraiment comme un malheureux. Non, je trouve qu'il fallait le faire au moins 3 mois plus tôt. Au moins 3 mois. Mais vous savez, les médecins, ils sont quand même un petit peu... Ils ont un peu des remords de faire ce genre d'histoire, mais je crois que... Et par exemple, il y a un hôpital catholique ici tout près. Là, ils ne le font jamais. Et quand quelqu'un devient vraiment... qui voient que c'est la fin, ils les envoient ailleurs pour les laisser mourir ailleurs parce qu'eux ne prennent jamais la décision d'interrompre. Oui, il n'y a rien à faire, hein, il faut... Et moi, j'avais fait mon deuil 5 mois et demi avant parce que je me suis dit, ça ne va pas. Il a fait une flébite et puis il a fait chier. Il y avait toujours quelque chose qui se rajoutait. Et je dis, quand il est mort, je me suis dit... J'étais plus malheureuse pendant les 5 mois et demi qu'après sa mort. Parce que je disais, maintenant, il souffre plus, c'est fini. Et j'ai senti le vide.
Merci à Georgette, Paul, Claudine et les autres. Merci à la famille Jacob. Je rappelle encore une fois que cette famille nous avait proposé, par ses témoignages, de contribuer à la réflexion sur l'euthanasie, sur la fin de vie, sur le fait de mourir dans la dignité. Merci à tous donc. Lundi, là-bas, si j'y suis, part en Chine. On va aller voir cet éléphant qui fait du vélo. Qui c'est l'éléphant? Ben, l'éléphant, c'est la Chine. Cet énorme morceau, c'est le gros morceau, la Chine, qui fait du vélo. On pourrait presque dire un vélo d'enfant. Tant l'équilibre est précaire. Et il suffirait de peu de choses, il suffirait d'un dérapage, d'un gravier dans un virage pour que tout s'écroule. Et on va suivre tout un voyage à travers le Pékin, le Hainan, Hong Kong, puis Canton, puis Shenzhen, et enfin retour à Pékin, à travers ce pays, évidemment, qu'on parlera des droits de l'homme, qu'on parlera de la démocratie, qu'on parlera des questions d'environnement, des questions de société, et mais aussi on parlera de l'énergie extraordinaire de ce peuple, de ces Chinois, parmi ceux que nous avons rencontrés, y compris les dissidents qui, à l'intérieur du pays, se battent très très courageusement, et pas seulement les intellos, les avocats et les officiels. À la technique, aujourd'hui, Alain Gadan et Marc Garven. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert écoute le répondeur jusqu'à lundi au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Nous y attendons vos messages.